Jérôme, tu es salarié à Amazon Douai sur le site de Lovin Planque. Actuellement, il y a une crise, on peut le dire comme ça, pas seulement sanitaire, mais aussi une crise entre la direction et les salariés. Pour bien comprendre, j'aimerais qu'on jette un œil dans le rétroviseur, c'est-à-dire que toi, en tant que syndicaliste militant à Sud, tu avais notamment prévenu sur les risques qu'encouraient les salariés parce que vous manipulez énormément de marchandises en provenance de Chine et au vu de la situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, pour vous, il y avait un danger. Alors déjà sur ce point, pour revenir un petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé?
Il y a maintenant à peu près un mois et demi, je pense, un mois et demi, quand on a entendu parler de cette maladie en Chine, qu'on a vu comment ça se fêtait expansif au niveau de la Chine, on se posait déjà des questions, nous, parce que on se disait, ben, de toute façon, nous, on manipule des cartons à 80% qui viennent de là-bas. Donc, beaucoup de travailleurs, dont nous, hein, forcément, on se disait, mais est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Donc, dès que nous, on se pose les questions, forcément, on les pose directement à la direction, qui, eux, forcément, répondent négativement tout le temps en disant non, il y a zéro risque en se prenant pour des médecins. On leur avait déjà fait plusieurs demandes de protection et savoir au cas où ça arrivait, s'ils avaient des mesures en cas de propagation de cette maladie. Alors eux, ils nous ont répondu, forcément, on trouvera, machin. Donc voilà, en gros, les premiers débuts. Et ensuite, et cette maladie qui est arrivée il y a un mois à peu près en France. Donc là, on les a interpellés en disant « Bon, ben maintenant, vous êtes sur le fait accompli. » Forcément, au début, vous disiez « N'ayez rien à craindre, c'est une petite grippe en Chine. » Donc là, maintenant, on arrive à une maladie très peu connue, voire pas du tout, en France. Donc maintenant, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et là encore, ils disaient « Mais on vous inquiétez pas, on va gérer, ça ira toujours. » Et là, on est arrivé dans les différents niveaux de processus de sanitaire au niveau de la France, c'est-à-dire niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et jusqu'à la locution du président lundi, où il disait qu'il a pas osé dire en confinement, sinon ça bloquait même les entreprises, mais qui a bien dit, moi j'ai retenu que deux mots pour lui, c'était on va protéger, on est en guerre, et on va protéger les entrepreneurs. Mais à côté de ça, nous, on savait très bien où on allait aller, c'est-à-dire que nous on allait morfler, quoi. Donc voilà un peu l'historique, quoi.
Et donc il y a eu aucune mesure sanitaire prise au sein de l'entreprise pour protéger les salariés.
Disons qu'à l'ampleur de notre entreprise, non, pas réelle. C'est-à-dire que nous, à part nous dire le président a dit que, le gouvernement a dit que, nous on travaille, on a le droit de travailler, avec des mesures à prendre, on va les prendre. J'ai dit non, c'est pas les mesures que le gouvernement a dit de prendre qu'il faut faire, c'est prendre des mesures à l'ampleur de l'entreprise. On est quand même la plus grande entreprise du Nord-Pas-de-Calais, quasiment après Renault, quoi. En nombre de CDI, Renault est plus grand que nous, mais sinon, avec les intérimaires compris, nous, on est beaucoup plus grand. C'est un nombre d'êtres humains qui sont à l'intérieur. Moi, je parle d'êtres humains, quoi, parce que eux parlent plus d'associates, bref, leur nom à eux, quoi, Americano. Moi, je leur dis, non, nous, on peut pas prendre ces mesures-là à la légère, parce que eux, ils parlent de mesures, on va dire, de distance de 1 mètre. Comment on peut déjà respecter ces 1 mètre-là quand les casiers, ils font 50 cm les uns sur les autres avec des allées, des dizaines d'allées les unes après les autres, quoi. Déjà, rien que là, on pourrait pas. On ne pourra jamais. Quand vous faites rentrer 100, 200, 500, 600 personnes d'un coup, du matin, de l'après-midi, de nuit, comment vous allez faire respecter ces 1 mètre? C'est impossible. Vous ne pouvez pas mettre ces mesures-là comme dans un supermarché Carrefour au champ à l'intérieur de notre usine. C'est impossible. Et là, de plus en plus, on est en train de leur faire voir. Alors, ils font semblant forcément pour continuer à tourner et pour contrer notre droit de retrait, de faire voir qu'ils mettent des pousse-mousses de temps en temps, qu'ils mettent des traits à droite, à gauche pour dire que là, c'est un net. Mais finalement, n'importe quelle heure de la journée, on peut se rendre compte que le confinement est toujours là, quoi.
Toi, t'as l'impression qu'il y a un deux poids, deux mesures. D'un côté, officiellement, on demande aux gens de se confiner, de rester chez eux, de s'isoler, d'éviter d'entrer en contact. Et là, on a une succursale d'une multinationale américaine où il y a des milliers de salariés sur le même site et ça, tout d'un coup, ça pose plus de problèmes.
Tout à fait, on se croirait vraiment dans une série B, quoi. C'est plus qu'humoristique pour nous, mais humour noir, forcément. C'est-à-dire qu'on voit à longueur de journée, tous les deux secondes à la télé, attention, Covid-19, ne sortez pas, Attention, pas plus d'une personne dans la rue, un machin bidule, mais nous, on a le droit d'être 200 les uns sur les autres, quoi. 500, 600, 1000. On arrive, on sait à croire qu'il y a un dôme au-dessus de Amazon, quoi. Là, on commence à voir arriver des petits certificats médicaux, machin, avec suspicion de Covid, machin, mais on sait très bien que nous, on est des êtres humains comme les autres, on est à l'abri de rien du tout, et que là, petit à petit, moi, c'est ce que j'ai dit à la direction ce matin, vous allez être victime d'un cluster, comme ils appellent, que c'est une région où ça amène des maladies, des gens malades, où il y a une grosse partie de... Mais là, ça va être Amazon, le cluster, ça va être une entreprise entière. Parce que nous, on nous laisse dedans. Allez, c'est parti, tous les jours, matin, midi et soir, comme si de rien n'était pour eux. La direction, je lui ai encore dit ce matin, je leur ai dit, vous allez être des assassins. Vous allez faire partie, quand vous marquez Make Your History, vous allez marquer l'histoire, mais pas de la bonne façon, ça c'est clair et net. On va se rappeler de vous comme une usine de meurtrière, quoi, parce que là, forcément, à partir de maintenant, on ne peut plus rigoler, on ne rigole plus avec ça. Vous pouvez faire semblant, vous pouvez dire on respecte, vous ne respectez rien du tout de la vie humaine. Ça, c'est clair et net.
On imagine bien que, d'un point de vue des salariés, ça crée aussi des conditions de stress, de détresse même, parce que, évidemment, il peut y avoir la tentation ou la contradiction entre le salaire et donc venir travailler et la mise en danger de soi en s'exposant à la maladie.
C'est la première chose qu'on met en avant. C'est-à-dire que là où on parle de chômage partiel à 90% des entreprises en France, là où on parle de retrait maladie pour des gens qui ont de l'asthme, du diabète et ainsi de suite, là où on parle de confinement pour les familles, nous, on nous dit, si tu te mets en droit de retrait pour ta santé, tu ne seras pas payé, tu seras considéré en absence injustifiée. Donc, ce qui amène deux problèmes, c'est-à-dire le premier problème, le principal, c'est-à-dire que les copains, eux, ils sont pas protégés par le chômage partiel, donc ils perdront, tous les jours qu'ils viendront pas travailler pour leur sécurité, perdront de l'argent, premièrement. Deuxièmement, après cet événement, si tout se passe pour le mieux, je l'espère, si tout se passe pour le mieux, ces personnes qui seront considérées en ANAP, comme ils appellent, en absence injustifiée, non rémunérés, ces gens-là risquent le licenciement après. Parce que à partir d'un certain nombre d'absences injustifiées, ils peuvent être licenciés. Donc c'est vraiment ça, c'est là on y est. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est marche ou crève. C'est tu viens pas, donc pis pour toi, t'as plus rien à faire ici. Alors qu'on sait très bien que lors du droit de retrait, enfin je veux pas rentrer dans les détails juridiques, c'est pas mon problème réel là à l'instant T, mais pour un droit de retrait, la seule et unique façon de contredire le droit de retrait, c'est d'aller au prud'homme, que ce soit pour le patron ou pour nous. Donc lui, il décide tout seul, en tant que bon Amazon, de dire « c'est nous qui décidons de ne pas vous payer ». Pour nous, notre droit de retrait est légitime. On est devant un danger grave et imminent qui s'appelle le Covid-19.
Alors ces pressions que font subir la direction d'Amazon à Douai sont illégales, étant donné qu'il y a un danger grave imminent, que vous avez le droit d'exercer votre retrait, cette démarche-là est illégale. D'ailleurs, le ministre de l'économie lui-même, Bruno Le Maire, s'en est offusqué publiquement.
Mais totalement, on n'a jamais vu faire ça, jamais. Ils ont les mains libres, c'est-à-dire que il y a eu une semi-rencontre avec le sous-préfet de Douai, qui lui dit directement au petit groupe de syndicalistes qui l'ont rencontré, ah mais non, nous, tout va bien. Amazon respecte les règles hygiéniques, il peut continuer à travailler, c'est une entreprise de première nécessité. Du coup, lui, on lui a répondu, mais est-ce que vendre des strings, des godemichés, des DVD, c'est de première nécessité pour un moment de confinement comme ça national? Après, c'est à vous de voir. Les gens cherchent plutôt des pâtes, cherchent plutôt du riz, cherchent peut-être des couches.
Et est-ce qu'il peut y avoir des poursuites à l'encontre d'Amazon, notamment par les organisations syndicales?
Ah mais s'ils ne payent pas, c'est sûr et certain. S'ils payent pas, s'ils continuent dans leur façon de faire, on ira tout droit au prud'homme. Forcément, une fois que ça serait réouvert, parce que pour trouver quelqu'un actuellement en France, c'est un peu dur. À part des Amazoniens, comme ils les appellent, y a plus beaucoup de monde. C'est à croire qu'on nous compare à des infirmiers, des pompiers, des machins, quand on nous dit vous êtes de première nécessité. Je m'excuse, il y a d'autres personnes à mettre en avant actuellement en France que nous, quoi. Le directeur dit on est de première nécessité. J'ai dit ah bon, je dis vous prenez pour un supermarché, vous vendez des carottes, vous vendez des laitues, vous vendez des tomates. Et je dis non, vous vendez pas tout ça. Et je dis là actuellement ce qui part c'est des DVD, c'est des écouteurs, c'est des iPads. Ouais, alors si tout ça pour vous c'est de première nécessité, moi je veux bien, hein, mais on n'a pas la même notion et à partir de là, on a tout de suite compris où vous voulez aller. c'est engendrer le plus gros bénéfice qu'il n'a jamais eu sur Terre avec la plus grosse maladie qui n'a jamais eu lieu depuis plus de 100 ans.
Oui, parce qu'on s'imagine que le confinement peut faire exploser la demande du commerce via Internet et par livraison directement chez soi. Il y a réellement un enjeu économique énorme pour une entreprise comme Amazon.
Mais totalement. Ils proposent aux syndicats de se réunir demain pour un accord de négociation pour augmenter de 2 à 3 euros de l'heure pour tout le mois d'avril. Alors qu'en simple négociation salariale, le plus haut qu'ils nous proposent, c'est du 1,5 d'habitude en pourcentage, ce qui représente, mensuel 15 ou 20 euros. Quoi. C'est plus que scandaleux, c'est plus coûteux. Quoi. C'est monnayer la vie des gens. Quoi. C'est, voilà, là, on a l'esclavagisme pur et dur. C'est, tu vaux combien, toi? Toi, tu vaux 2 ou 3 euros de l'heure. Bon, allez, vas-y, tu vas pour 2 ou 3 euros de plus de l'heure, tu vas pouvoir aller crever là-bas. En plein milieu de l'entreprise Amazon à l'Aubin-Planck.
Je reviens à cette idée qu'il y a un jeu de dupes un peu étrange, parce que comme on l'a dit, le ministre de l'économie s'est scandalisé des pressions que pouvait faire Amazon sur les salariés, mais en sous-main, la sous-préfecture donne son accord à Amazon pour continuer à travailler, et tout ça pour sauvegarder coûte que coûte des profits en fait.
Il parle d'économie, mais moi je parle de profit parce qu'on sait tous très bien, ça je ne l'inventerai pas, que Amazon paye en impôts en France, contrairement à ce qui se ramasse comme chiffre d'affaires et comme pognon et comme bénéfice, on est très très loin du compte quoi. Eux ils pensent payer des impôts en France, on leur a simplement dit que c'était des charges qu'ils payaient, même pas des charges, c'est le minimum légal qu'ils pouvaient payer. Donc et puis là maintenant ils vont encore engranger et on les laisse faire. Bientôt ils vont toucher la prime d'activité tellement ils payent pas d'impôts quoi.
Face à tout ça, comment ça s'organise pour les salariés? Est-ce qu'il y a la perspective d'une grève? Est-ce qu'il y a des débrayages pour contester?
Depuis hier, de toute façon, ils se sont rendus compte que comme ils mettaient de plus en plus la pression avec le droit de retrait, ils ont dit bon c'est simple, maintenant tu veux mettre la pression, nous on sort maintenant, c'est tout. Nous on a montré la bonne volonté en venant travailler malgré tout pour essayer de pas perdre un peu d'argent. Là maintenant tu veux plus, nous on veut plus non plus, on veut plus crever. Donc maintenant les gens ils sont là, ils sont en débrayage. Donc les secteurs principaux, là où les camions rentrent ou qui sortent, eux ils travaillent plus. Donc forcément Monsieur Amazon ne trouve rien de mieux, c'est de faire former les agents de sécu qui à l'origine sont là pour surveiller les vols, s'il n'y a pas d'agression, si machin. Eux là ils sont en train d'être formés pour faire rentrer, sortir des camions, pour les mettre à quai et ainsi de suite. Ça c'est la stratégie pure et dure d'Amazon. Tous les secteurs, là, commencent à péter un plomb. Il y a entre 100, 150 personnes qui se mettent des fois en droit de retrait, selon les matins, selon les jours, 50, 60. Après, il y a toutes les personnes qui se mettent en maladie. Puis, maintenant, on a des personnes entre 50, 100 personnes qui se mettent en grève directe, quoi, pour même plus chercher à comprendre, quoi.
Est-ce que tu sens ou est-ce que tu as l'impression que face à un danger commun, à un dommage commun, ça peut renforcer le collectif?
On sent que ça commence à venir, mais le problème c'est ça aussi, c'est que les gens, par rapport à leurs convictions, par rapport à leurs syndicats, par rapport à là où ils sont, ils ont par rapport à leurs idées bien convenues par rapport à certains syndicats. Nous on est Sud Solidaire, forcément au début c'est les extrémistes, ceci. Sauf que nous, là, ils se rendent bien compte qu'on est là pour sauver la peau des gens, qu'on est là pour rien négocier. Nous, on s'en fout de négocier. Nous, on n'y va même pas à leur négociation de 2 euros. On s'en fout. Nous, les seules propositions qu'on leur a faites à la direction, c'était pour sauver la peau des gens. Mais donc, là, ils se sont rendus compte. Nous avons fait la proposition d'une intersyndicale pour que tous les syndicats confondus soient là et tout le monde a ramené à l'appel pour dire que, de toute façon, on est là sur un but commun, c'est sauver le maximum de personnes, quoi. On n'est même plus là pour parler de concurrence ou de quoi que ce soit. Donc là, les gens forcément sont soudés parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, là, on est des êtres humains comme les autres, quoi. On est des travailleurs comme les autres. C'est-à-dire qu'avant d'être syndicaliste, on est là pour notre paillasse aussi, quoi. Et surtout, c'est que le masque d'Amazon est tombé. C'est-à-dire que là, ils ont beau jouer les paternels, ils ont beau jouer les grands frères en faisant des soirées entre copains, en offrant des bananes et des pom-pom girls. Là, les gens se rendent compte qu'en fin de compte, c'est plus le patriarche qui est là pour donner les coups de fouet, quoi. Là, maintenant, ils se mettront face à la réalité des choses. Ça, c'est clair et net. Il y aura un avant et un après.
Une voiture qui crame sur le parking en guise d'anime de pied de patte. Des keufs qui me demandent si j'ai bu à même pas 9 du mat. Une violence permanente dans les regards, les comportements. Des murs en carton pour séparer les appartements. Des formations d'avenir pour tes jobs précaires. Des schlags de tout âge à ramasser à la petite cuillère. La liste de ce qui nous pousse à bout est longue comme le bras.
Un jour sans pain,
comme le quotidien dans Clodo sans pape. Dur de pas péter la soupape, à trimer comme des chiens pour pas finir à faire la queue au secours pop. Des potes au bord de la dépression nerveuse. Des médicaments trop forts qui éclatent les yeux. Une culture du buzz, du bis qui nous écrase la nuque. Une crise servant d'excuse à quelques types rusés. Des gosses hyperactifs aux parents épuisés. Des écrans plus addictifs que 10 grammes de C. C'est dans l'accumulation de ces merdes qu'on nage la brasse couler. Dans le creux de la vague qui parfois paraît une éternité. On pourrait chialer sur le sort mais je vois pas la finalité. De façon, c'est pas dans le genre de nos mentalités.
Même si la vie nous met des pas, on reste debout, on tient le coup.
Si la situation est grave,
on reste debout, on tient le coup.
Même si souvent on en bat,
on reste debout, on tient le coup.
Si la vie nous met des pas,
on reste debout, on tient le coup.
Si la situation est grave,
on reste debout, on tient le coup.
Même si souvent on en va,
on reste debout, on tient le coup.
On peut être riche sans un sou, fort sans être musclé. Marquer les esprits en restant discret. On va pas se battre contre les murs qui font tenir la baraque.
Autrement dit,
sniquer entre nous chaque fois que nos nerfs craquent.
On est plus fiers que ça,
que de céder à la facilité de dire que c'est toujours la faute des autres.
Ça pourrait pas être pire.
On sait tenir la main et l'attendre, mais on peut plus attendre de voir passivement ce qu'on risque de devenir. Laisser une poignée de décideurs penser agir à notre place.
À se faire chier
en attendant que ça passe au fond de la classe. On a bien assez pioncé, conforté dans nos rôles de pion à s'empêcher de penser, à vouloir défourailler, sans jamais apprendre à bâtir, à réfléchir une fois que le mal est fait. On en connaît les faits, mais je laisse les résignés verser dans le victimisme. C'est pas ma cam, pourtant je suis pas un modèle d'optimisme. Mais je me laisse pas abattre, tant que j'ai du souffle et que mes jambes me portent. Je sais que le monde est vaste, encore du chemin à faire, à ma petite échelle, mais j'y crois.
Mais j'y crois,
j'avance à la force des bras.
L'indépendance comme maître mot,
la sagesse en ligne de mire,
la rage au
bide, et cœur comme unique métronome me guide. J'attends plus les permissions, ni qu'on m'ouvre des portes. Y'a ce trompin qui bouillonne, il fallait juste qu'il sorte.
Même si la vie nous met des pas,
on reste debout, on tient le coup.
Si la situation est grave,
on reste debout, on tient le coup.
Même si souvent on en bat,
on reste debout, on tient le coup.
Si la vie nous met des pas,
on reste debout, on tient le coup.
Si la situation est grave,
on reste debout, on tient le coup.
Même si souvent on en bat,
on reste debout, on tient le coup.